Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Alors que s'achève une année 2021 marquée par le bicentenaire de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, il est temps de s'interroger sur la postérité de l'empereur des Français. Entendez par là ses héritiers. Et celui qui nous intéresse en particulier aujourd'hui n'est ni l'Aiglon, le duc de Reichstadt ou le roi de Rome, ni Alexandre Walewski, le fils qu'eut Napoléon avec une comtesse polonaise. Non, c'est Léon qui nous intéresse, le fameux fils Léon dont il est question dans une chanson populaire.
Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon.
Eh bien, sachez que le Léon de cette chanson a bel et bien existé. Et cette comptine le raille à juste titre, car il fut un loser de première classe. S'il ne suça pas les fils de son caleçon, il mourut dans une telle misère qu'il n'était pas loin d'en être réduit à devoir le faire réellement. Suivez-moi dans cet épisode en deux parties, à la rencontre de celui qui aurait pu entrer dans l'histoire sous le nom de Napoléon Zéro. Première partie, un demi de Napoléon. Léon est l'un de ces infortunés fils d'eux que ses contemporains considèrent comme un raté d'autant plus pathétique que son père était considéré dans le monde entier comme l'un des plus grands hommes de tous les temps, l'un de ces êtres auréolés de gloire comme l'histoire de l'humanité n'en produit qu'un par siècle, l'empereur Napoléon Ier. Infortuné Léon, quoi qu'il entreprenne, cela tourne mal. Et ces échecs sont d'autant plus accablants qu'ils sont par la force des choses mis en balance avec les succès fulgurants de son papa. À 33 ans, âge auquel Léon sort de 2 ans de prison pour dette, Bonaparte était lui premier consul et à quelques mois d'être sacré empereur des Français à Notre-Dame. Là où Napoléon connaîtra une gloire ascendante, y compris dans l'exil à Sainte-Hélène, qui viendra ajouter la couronne du martyr à sa couronne de laurier, son fils vivra une lente descente aux enfers, qui illustre magistralement la phrase de son propre père
« On peut s'arrêter quand on monte, jamais quand on descend ».
Et en effet, jamais Léon ne cessera de dégringoler, comme si son père, ayant accaparé toute la gloire de son siècle, il n'était plus resté au fils d'autres terrains pour s'illustrer que ceux de la médiocrité, du tapage, du vice, de l'escroquerie et pour finir, du caniveau. Que sa progéniture ne soit pas à sa hauteur, Napoléon lui-même en pressentait le risque. Il avait écrit
« Le génie ne se transmet pas. Depuis que le monde est monde, il n'y a pas eu, que je sache, deux grands poètes, deux grands mathématiciens, deux grands conquérants, deux monarques de génie dont l'un soit le fils de l'autre. »
Cela étant, quand bien même l'aigle ne s'attendait pas à engendrer son alter ego, il n'aurait probablement jamais imaginé, même dans ses pires cauchemars, donner naissance à un vilain petit canard de l'engeance de Léon. Grâce au ciel, Napoléon Ier mourut avant que Napoléon Zéro ne commence à déraper sérieusement. La naissance du petit Léon s'était pourtant déroulée sous les auspices prometteurs de la gloire et des sommets, puisqu'il voit le jour le 13 décembre 1806, rue de la Victoire, division du Mont-Blanc. Soit 2 mois après la grande bataille d'Iéna, remportée par son empereur de paix. Victoire, Mont-Blanc, Iéna, empereur, autant de noms annonciateurs d'un avenir radieux. D'autant que Napoléon, à qui cette heureuse nouvelle parvient 15 jours plus tard alors qu'il se trouve à Pulstuk en Pologne, est littéralement fou de joie lorsqu'il apprend la naissance de son premier enfant, et qui plus est d'un fils. Marié depuis bientôt 11 ans à Joséphine, il n'avait toujours pas de descendance et il se croyait stérile, son épouse ayant pour sa part déjà 2 enfants, Eugène et Hortense. La naissance de Léon, dont je vous présenterai la mère dans quelques minutes, vient donc lui confirmer que le problème ne vient pas de lui, mais de sa femme légitime. À compter de ce jour, commencera d'ailleurs à germer dans son esprit le projet de sa répudiation. Mais pour l'heure, emporté par l'enthousiasme, l'empereur chantonne et prend un bain, signe caractéristique de son excellente humeur. Le lendemain même, il rencontrera Marie Walewska, belle et héroïque jeune femme issue de la noblesse polonaise, qui lui donnera donc un autre fils, Alexandre, dont le destin sera nettement plus reluisant que celui de son demi-frère aîné. Si la naissance de Léon est accueillie par des transports de joie, au moins par son empereur de père, ce premier fils de Napoléon Ier démarre toutefois dans l'existence avec un gros handicap. Il est donc un enfant naturel, ce qui change tout. Son acte de naissance indique d'ailleurs de père absent, puisque cet enfant est un bâtard qui ne pourra jamais prétendre succéder à son père à la tête de l'Empire, on ne lui donne que la moitié du prénom paternel. Léon, nom de baptême qui correspond également à la moitié du prénom de sa mère, qui s'appelle donc, vous le savez désormais, Éléonore. Un enfant naturel, de père absent, considéré comme la demi-portion de chacun de ses géniteurs. Ah, voilà qui de nos jours suffirait à expédier Léon sur le canapé de quelque psychanalyste lacanien aux yeux duquel le seul fait pour Léon de porter un prénom amputé de moitié viendrait excuser les débordements ultérieurs de son existence. Bref, et cela ne s'arrangea guère avec le temps, puisque déjà privé de père, Léon sera abandonné par une mère totalement indifférente à son sort.
Privé de la tendresse d'une mère et de l'autorité d'un père, n'avais-je pas tout pour n'être rien ?
Voilà ce qu'Isabelle Bricard fait dire à Léon dans le roman qu'elle lui a consacré. Alors il est temps de faire les présentations. Qui donc est cette Éléonore qui donne un fils à Napoléon Ier ? Et qui était tout à la fois une mère indigne, une mauvaise épouse et une mauvaise mère. Éléonore Revel, de son nom de jeune fille, Denuel de la Plaigne, née en 1787, morte en 1868. C'est une amie de Caroline Bonaparte, la sœur de l'empereur. Les deux jeunes femmes se sont connues chez Madame Campan, une ancienne dame de compagnie de Marie-Antoinette. Créée sous le directoire, l'école de Madame Campan, destinée à l'élite de la société nouvelle, est un vivier de jeunes filles à marier. Aiglée Auguier, future épouse de Ney, le maréchal Ney. Caroline Bonaparte, future épouse de Murat, futur roi de Naples et aussi très grand cavalier, donc beau-frère de Napoléon. Et Hortense de Beauharnais, future épouse de Louis Bonaparte, un frère de Napoléon Bonaparte. Eh bien, toutes ces demoiselles ont été les condisciples d'Éléonore chez Madame Campan. Mais la future mère de Léon appartient à une famille d'aristocrates désargentés qui lui font épouser le 15 janvier 1805 le premier soupirant venu, un certain Jean-Honoré François Revel. C'est un officier de dragons, mais surtout un escroc aux petits pieds. À peine la nuit de noces des tourtereaux est-elle consommée que Revel, inculpé de faux en écriture commerciale, est condamné à 2 ans de prison. La jeune épousée s'en va alors pleurer dans les jupes de Madame Campan, qui lui suggère de solliciter un emploi auprès de son ancienne condisciple Caroline Bonaparte Murat, devenue entre-temps princesse impériale. La jeune et ravissante Éléonore devient donc lectrice de Caroline, qui, très au fait des goûts de son frère en matière de femme, compte fermement sur sa jeune protégée pour se livrer à un genre d'effeuillage moins intellectuel que la lecture. Comme elle déteste sa belle-sœur Joséphine, Caroline a en effet pris l'habitude d'approvisionner son frère en chair fraîche. C'est donc elle qui, en janvier 1806, va placer Éléonore sur son chemin comme une grenade dégoupillée. Et tandis que Napoléon fait d'Éléonore sa maîtresse, Jean-Honoré François Revel ronge son frein derrière les barreaux et se demande pourquoi sa jeune femme ne lui rend pas visite et ne lui écrit jamais. Les anecdotes autour de la brève liaison entre Napoléon et Éléonore sont bien connues. Les rendez-vous furtifs entre 2 séances de travail de l'empereur dans la pièce secrète aménagée aux Tuileries. Les 2 heures, pas davantage, imparties à leurs ébats sans amour. Éléonore attendant indéfiniment le bon vouloir de Napoléon. puis avançant l'aiguille du cartel de l'horloge, en somme, afin d'abréger le moment qu'elle devait passer avec un amant probablement plus glorieux sur les champs de bataille que dans un lit. Tout cela est de notoriété publique et nous intéresse évidemment moins que le futur petit Léon, fruit inattendu de ses étreintes clandestines. Ajoutons tout de même ici, pour mettre une touche finale au portrait de son édifiante mère, que non contente d'être la maîtresse de l'empereur, elle fut aussi celle de Murat, sous le propre toit de Caroline, sa bienfaitrice. Il est à noter que tout bâtard qu'il fût, Léon frôla malgré tout un instant la gloire avant de sombrer dans la médiocrité et l'oubli. Pendant un très court moment, en effet, le trône de France aurait pu lui échoir, Napoléon ayant eu l'idée saugrenue de le faire passer pour son fils et celui de Joséphine. Il aurait suffi pour cela que l'impératrice prétende être enceinte et s'éloigne quelque temps de la capitale, mais Corvisart, son médecin, se refusa à couvrir un tel stratagème. Napoléon envisagea ensuite d'adopter Léon, avant d'y renoncer assez vite, jugeant trop ancien régime ce projet de légitimation d'un enfant naturel dont il ferait son héritier. Une fois encore, mauvaise pioche pour Léon, et adieu trône, empire, rêve de puissance et de gloire. Mais ne vous y trompez pas, le jeune Léon mène malgré tout une vie de rêve. Certes, sa mère ne s'occupe guère de lui, mais il est élevé avec les quatre enfants Murat, en particulier le petit Achille, dont il a l'âge, et surtout il a la joie d'être reçu régulièrement par son père à l'Élysée et aux Tuileries. Le maître du monde souffle devant lui dans une trompette pour l'amuser, imite la poule qui vient de pondre, et comme Henri IV se met à quatre pattes pour être à sa portée. Léon se sent important. Napoléon le reçoit encore quelques fois après son mariage avec Marie-Louise, mais après le 20 mars 1811 et la naissance de l'Aiglon. Léon est relégué au second plan dans l'affection et l'intérêt de l'empereur. Et pour lui, tout va se mettre à tourner de travers. Élève à Lix, il entend constamment parler de lui comme de...
l'enfant de vous savez qui.
Comment ça, Lix? Léon était polytechnicien et l'on voudrait le faire passer pour un nul? Sauf qu'à y regarder de plus près, l'école qu'il va fréquenter n'est pas Lix Polytechnique. Mais Lix, H-I-X, une pension pour petits garçons qui se trouvait alors rue de Matignon. Au cours des 10 années qu'il va y passer, avant de se faire renvoyer de cette institution, Léon recevra en tout et pour tout 2 lettres de sa mère. 2. Depuis la naissance de Léon, Éléonore a divorcé, elle s'est remariée puis s'est retrouvée veuve et elle vit désormais à Mannheim, dans le Grand-Duché de Bade, avec son 3e mari, le duc de Luxembourg, un diplomate bavarois. Quant au père absent, qu'on lui dit toujours...
retenu à l'étranger pour de mystérieuses affaires.
Léon le verra pour la dernière fois de sa vie à la Malmaison, en mars 1815. Alors à défaut d'avoir des parents sous la main... Léon est placé sous la responsabilité d'un conseil de famille qui comptera des noms prestigieux comme ceux de Lascaz ou Vivant Denon, le directeur et le créateur du musée du Louvre. Et il aura également un tuteur légal désigné par Napoléon lui-même, Monsieur Mauvière, qui n'est autre que le beau-père de Menval, secrétaire de l'empereur. Menval lui succédera à son grand âme, car il sera littéralement poussé à bout, usé jusqu'à la corde, écœuré par les turpitudes et les extravagances de son protégé, au point de devoir renoncer purement et simplement à ce rôle de tuteur. Car dès qu'il sera délivré de ses austères censeurs, Léon n'aura plus qu'une idée en tête, festoyer et dilapider sa fortune. Car le jeune Léon est riche, son père y a pourvu. 3 mois avant la première abdication, il lui a constitué une rente de 12 000 francs. Le 26 juin 1815, l'un de ses derniers actes officiels avant son départ pour Sainte-Hélène est encore d'attribuer à Léon une rente de 100 000 francs. Enfin, il lui donnera dans son testament la somme de 300 000 francs, soit plus d'1,5 million de nos euros. Et Napoléon de préciser.
Je ne serais pas fâché que le petit Léon entrât dans la magistrature si cela était de son goût.
Hélas, nous dit Charles Noroy dans Les Secrets de Bonaparte, ce ne fut point son goût, il n'en eut d'autre que la paresse. Après la mort de Napoléon le 5 mai 1821, le bâtard impérial Léon va faire semblant de respecter la dernière volonté paternelle en suivant quelques cours à l'école de droit de la place du Panthéon. Mais bien vite, il s'endort sur le code civil et sèche les cours. Après avoir échappé à l'attention de son tuteur, Menval, au cours d'une représentation théâtrale, il s'enfuit en Allemagne pour y retrouver sa mère. Il y passe quelque temps, mais réalise que pour le jeu, les femmes, la gastronomie et les théâtres, il n'y a que Paris. Il s'y rapatrie donc afin d'y entamer au plus vite une très brillante carrière de parasite, bambocheur, tapeur, importun, oisif, emploi difficile, requérant des dispositions physiques et intellectuelles particulières comme la paresse, la résistance au sommeil, à l'alcool et à la syphilis. Cela tombait bien, Léon présentait justement sous leur forme la plus aboutie toutes ses qualités de parfait raté. À cette époque-là, Léon commence à écumer les tripots. Il travaille son look de parfait dandy, sans dette partout où il passe, en particulier chez les tailleurs, les chausseurs et les restaurateurs. Selon le mot de Max Billard, il devient
« ce prince charmant des mille et une nuits parisiennes qui ne trouvait pas assez de fenêtres par où jeter son argent ».
En 1826, estimant que l'on ne peut être le fils de Napoléon Ier sans posséder un titre de noblesse, Léon s'auto-décerne le titre de comte. Il dessine son blason et fait réaliser des cartes de visite au nom du comte Léon. Puis, muni de ce patronyme aristocratique qui en imposera au moins un temps à certains prêteurs, il dilapide l'argent à peine emprunté, court la gueuse, festoie, se fait admettre au très sélect club du bicarbonate, comprenez les bambocheurs impénitents, casseurs de réverbères, bretteurs ombrageux, noceurs assoiffés, trousseurs effrontés, où sa candidature ne pouvait manquer de faire l'unanimité. Dans Paris, où il commence à être connu comme le loup blanc, d'autant qu'il est le sosie de son père, on le surnomme l'aiglon des boulevards. Or, en 1828, alors qu'il n'a pas 22 ans, l'aiglon des boulevards est déjà quasiment sur la paille. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire, consacrée à Léon, le fils raté de Napoléon. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Je vous dis à très bientôt.